franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia et bonjour à tous. Bienvenue chez les riches. Enfin, chez les très riches, les super riches. Bienvenue à Colony, sur les rives du lac Léman, autrement baptisé le Beverly Hills ou le Neuilly de Genève. Car nous sommes donc en Suisse, et dans cette curieuse bourgade habitent les plus grandes fortunes de la planète. Des pétroliers du Golfe, de jeunes loups de la finance, de vieilles familles de l'industrie, quelques champions, quelques artistes, et parmi eux de très nombreux Français. Charles Aznavour, Jean-Claude Killy, et les anciens coureurs Alain Prost et Jean Alési, le propriétaire de Chanel et l'héritier du groupe Auchan, l'un des fils d'Alain Fleloup et la fille de Francis Bouygues. Et puis, depuis quelques années, un homme a décidé de faire de Coligny son nouveau fief, des terrains, déjà trois villas, et il en aura bientôt d'autres, d'immenses et splendides demeures pour chacun de ses enfants.
Mais quel est donc cet homme ? Serait-ce Patrick Drahi ?
Patrick Drahi, le nouvel empereur des télécoms et patron d'une foule de médias, foultitude de médias, Libération, L'Express, Next Radio, BFM TV, un homme qui cet automne confessait qu'il n'aimait pas payer les salaires. « J'en verse le moins possible », avait-il lancé devant un parterre d'investisseurs. Drahi, dur en affaires, il restructure, il licencie, mais Drahi tendre avec les siens, qu'il fait donc vivre à Colony. Colony, c'est Drahi City, nous explique Sophie Desdéserts ce mois-ci dans Vanity Fair. C'est toujours bien ce qu'écrit Sophie Desdéserts. Et à l'heure où la France connaît l'une des crises sociales les plus dures de ces dernières années, il s'agit là d'une sidérante plongée dans une petite colonie de privilégiés milliardaires. L'air y est pur, l'impôt léger, le voisinage de qualité, des caméras de surveillance un peu partout pour rassurer et des agents de sécurité qui tournent en boucle dans les rues dont les villas, qui font rarement moins de 300 mètres carrés, se vendent en moyenne entre 10 et 30 millions d'euros, ce qui en fait l'un des emplacements les plus chers du monde, au même titre que la 5e avenue à New York. Bienvenue chez les méga riches, l'argent permet toutes les folies. Pour l'un, c'est une piscine tapissée de mosaïques en or. Pour un autre, un palais construit en marbre blanc, palais vide. La plupart du temps, du coup, un gardien vient allumer les lumières pour faire croire qu'il y a de la vie. Parfois, il diffuse même de la musique. Mais c'est toujours la même, s'agace une voisine. De l'agacement, il y en a également lorsque certains menacent la tranquillité des lieux, ainsi quand une jeune députée a proposé l'installation de logements sociaux dans le village. Le cancer socialiste est en train de grignoter la Suisse, ont empêté ses adversaires. Finalement, il n'y aura pas de logements sociaux à Colony. Du reste, il n'y a pas non plus beaucoup de commerce dans le village. Une épicerie, un salon de thé, un fleuriste, un styliste pour chien, pas un toiletteur, Patricia, un styliste pour chien, mais
c'est
à part cela, je ne sais pas, à part cela, rien du tout, si ce n'est peut-être l'ennui. Et puis l'été, David Guetta qui vient mixer sur les terrasses, l'ennui qui d'ailleurs peut conduire jusqu'au drame. Il y a quelques années, une Russe, lassée par les absences de son mari volage, l'a massacrée au couteau. On se croirait dans le feuilleton Desperate Housewives. Bienvenue chez les dingues. La dinguerie.
Oui, il en sera
question également ce dimanche, devant les tombes de la nécropole de Douaumont à Verdun, la dinguerie de la guerre et celle de cette bataille qui a fait 300 000 morts.
Et Le Monde, le journal Le Monde, propose d'ailleurs un supplément de 8 pages consacré à ce sujet.
Supplément dans lequel on peut lire notamment que la bataille de Verdun, comme celle de la Somme, a montré l'incapacité des généraux en place à percer les lignes ennemies. Et dès lors, ce furent donc 300 jours de combat pour rien. Pour commémorer la bataille, on annonce pour aujourd'hui du grand spectacle, 4000 jeunes et des tambours, sans doute la cérémonie la plus créative et la plus ambitieuse depuis celle organisée en 1989 pour célébrer le bicentenaire de la Révolution française. C'est du moins ce que nous explique le JDD, qui précise par ailleurs que le grand-père de François Hollande fut envoyé à Verdun en mars 1916. C'était avec le 33e régiment d'infanterie, celui du jeune Charles de Gaulle, le président de la République, qui avec Angela Merkel rendra donc hommage aux soldats qui sont tombés cette année-là. Cérémonie pour célébrer également le rapprochement entre leur peuple, entre donc la France et l'Allemagne, une amitié dont les jumelages restent aujourd'hui l'un des piliers, les jumelages franco-allemands. Imaginé par un ancien prisonnier de guerre, résistant déporté au camp de Buchenwald, il s'appelait Lucien Taradin. Il était maire de Montbéliard dans les années 50 et c'est donc lui qui, le premier, a organisé un jumelage de sa cité franc-comtoise avec une commune allemande. Son passé aurait pu le pousser à nourrir une haine immense contre l'Allemagne, mais il a fait le choix inverse, celui de tendre la main, confie non sans fierté l'actuel maire de la ville dans La Croix. C'est Malo Tresca qui signe le papier et nous explique que le modèle de coopération pensé par Lucien Taradin est devenu rapidement une norme de la vie communale, des échanges scolaires franco-allemands, des échanges culturels. Cependant, les jumelages ne fonctionnent pas toujours. Parfois, le courant ne passe pas entre les habitants ou les délégations des municipalités concernées. Et puis, dans les campagnes, la génération créatrice des jumelages s'est éteinte et souvent ne s'est pas renouvelée, déplore une spécialiste des relations franco-allemandes. Dans ce cas-là, ne subsistent de ces belles amitiés que de vagues souvenirs dans la mémoire des anciens et des panneaux rouillés à l'entrée des villes. Hollande, au premier plan donc ce dimanche à Verdun, un peu de répit pensera-t-on, comme une pause dans le conflit persistant sur la loi El Khomri. Une loi qui déplaît à la majorité des Français, si l'on en croit l'enquête de l'UFOP publiée dans le JDD. 46% des sondés souhaiteraient que le gouvernement retire son projet de loi, mais ils ne sont que 14% à penser qu'il va retirer son projet de loi. Des Français qui ont également une mauvaise opinion du leader de la CGT, enquête Odoxa, publiée dans Le Parisien. 67% des sondés ont donc une mauvaise opinion de Philippe Martinez, mais près des deux tiers pensent aussi qu'il est actuellement le meilleur opposant au président de la République.
Bienvenue en enfer.
C'est ce qu'on se dit à la lecture du reportage de Camille Neveu dans le journal du dimanche. Reportage dans la ville de Fallujah en Irak, tenue par le groupe islamique, mais que la coalition internationale tente aujourd'hui de reprendre. Les civils sont pris au piège et ils n'ont plus rien à manger. Et puis à propos de terrorisme, cet écho dans le même journal à propos d'une mère qui a perdu sa fille Chloé dans les attentats du 13 novembre à Paris. Elle s'appelle Elisabeth Boissineau et elle a demandé une autorisation de l'administration pénitentiaire afin de rencontrer Salah Abdeslam. Le rencontrer, non pour lui parler, mais pour lui montrer une photo de sa fille Chloé, charmante, joyeuse, un peu timide, disaient ses amis. Chloé Boissineau n'avait que 25 ans. Selon l'hebdomadaire, sa mère avait aussi prévu de ne pas payer ses impôts cette année, afin de ne pas financer l'aide juridictionnelle dont va bénéficier le terroriste présumé. Mais elle a finalement changé d'avis après un entretien avec la secrétaire d'État en charge de l'aide aux victimes, qui lui a expliqué que sans avocat pour défendre Abdeslam, la justice ne pourrait être rendue en ce jour de fête des mères. Impossible de ne pas avoir une pensée pour Chloé et pour la maman de Chloé.
Dans la presse, d'ailleurs, on trouve de très nombreux sujets sur la fête des mères.
Notamment dans la presse régionale. Non, cette fête n'est pas ringarde, explique aujourd'hui Varmatin, qui propose 4 pages spéciales de messages de ses lecteurs, messages d'affection à leur maman. Portrait de mère de rugbymen dans les colonnes de Centre Presse. Elle serait, si l'on en croit le journal, le 16e homme du 15 de Rodez. Et puis, sondage dans le Télégramme, 77% des mamans continuent de plébisciter le collier de nouilles. Elle le préfère très largement au coffret à bijoux sculpté dans une boîte à camembert ou au bougeoir en pâte à sel, d'ailleurs dans West France. Vous lirez qu'il est très important de le porter, ce collier de nouilles, parce que votre enfant y a mis tout son cœur et tout son amour. Et puis le Parisien répond à cette question essentielle. Pourquoi le collier de nouilles? Pourquoi donc ce cadeau généralement si moche? Réponse, car il a l'avantage d'être comestible. Si dans les maternelles, un jeune élève se met à manger une coquillette, même crue, rien de dramatique, il faudra juste refaire le cadeau. En revanche, s'il avalait des perles en plastique par exemple, là, ça pourrait être dangereux, ou des diamants. Voilà donc la raison du succès du collier de nouilles, sachant que si vous le trouvez trop moche, 7-8 minutes dans l'eau bouillante, vous aussi, vous pourrez le manger. Tous les jours nous reviennent également sur les intempéries qui ont frappé la France hier. Un déluge sur Saint-Nazaire, titre Presse Océan. Tandis que le Parisien fait sa une sur la foudre qui s'est abattue sur un arbre du parc Monceau. 11 personnes foudroyées, dont l'une, un enfant, est toujours dans un état critique. Et comme parfois lors des drames, il y a un héros, note l'édito du quotidien. Pascal Grémillot est pompier. Et même s'il n'était pas en service hier, c'est lui qui a guidé les secours et qui a ramené à la vie un enfant en arrêt cardiaque. Sans son intervention et sans son professionnalisme, le bilan aurait pu être encore plus terrible. Le tennis fait la une également ce matin. Et la question bilan, ce n'est pas terrible pour les Français au tournoi de Roland-Garros. Après l'abandon de Tsonga et les défaites de toutes les filles, il ne reste qu'un seul joueur tricolore en lice, en l'occurrence Richard Gasquet. Et c'est le pire score à ce stade depuis 2010. Le JDD parle de guigne, le Parisien parle de poisse. Adieu la terre battue, bienvenue dans les vestiaires. Enfin, la Voix du Nord consacre un dossier ce matin aux villes des Hauts-de-France qui luttent pour plus de propreté. À Lille, on fait la chasse aux mégots par terre. 18 tonnes de mégots ramassées chaque année. Et la commune de Béthune vient de se doter d'une brigade verte. 3 hommes qui parcourent la ville pour inciter les habitants à davantage de civisme. Par exemple, ne pas déposer leurs poubelles n'importe où. Et là, du coup, on est tenté de lancer. Bienvenue chez les Ch'tis.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.